Chapitre 7. Yumiko Yuchitsune se réveilla la bouche pleine de poils. Elle détestait cela, bien que la chose lui arrivât couramment lorsqu'elle se changeait en félin. Une fois métamorphosée en chat, en puma, elle faisait longuement sa toilette en se léchant selon les règles en usage chez les félidés. Cela la condamnait à avaler de grosses boules de poils agglomérées qu'il lui fallait ensuite vomir au prix de spasmes douloureux. Elle n'y pouvait pas grand-chose, le processus de transformation lui échappant de plus en plus. Dès qu'elle s'endormait, elle était assaillie par des rêves au contenu fort peu humain. Elle s'y voyait chassant les souris ou traquant une biche au fond des bois. Les sensations étaient toujours d'un réalisme stupéfiant. Chaque fois qu'elle dévorait une proie, elle avait sur la langue le goût du sang et de la chair crue. Ce plaisir la faisait presque défaillir. Au réveil, bien sûr, il en allait autrement, et le dégoût la submergeait. Elle n'avait pas prise sur ses dérives oniriques. Elle les subissait dès qu'elle fermait les paupières. La seule parade restait l'insomnie, stratégie peu envisageable à long terme. Elle savait que ses rêves récurrents lui étaient dictés par les nanoparticules saturant son organisme. Les nanoéléments n'avaient qu'une obsession, l'adapter à son environnement. Un environnement qu'il jugeait hostile et dans lequel, si l'on désirait survivre, il était hautement préférable de revêtir la forme d'un prédateur. Yumiko se pencha au-dessus de la cuvette des toilettes pour vomir une deuxième fois. Les spasmes lui secouaient l'œsophage de manière atroce. Décidément, elle ne s'y habituerait jamais. Elle rendit une nouvelle boulette de poils, puis, ayant actionné la chasse d'eau, entreprit de se laver les dents. Depuis 3 mois, elle se transformait chaque nuit pendant son sommeil. Elle ne conservait au réveil aucun souvenir de ses équipées nocturnes. Elle supposait qu'une fois changée en lynx ou en coyote ou en puma, elle quittait la maison pour aller chasser dans les collines. Elle ne contrôlait son corps qu'à l'état de veille. Dès qu'elle s'assoupissait, les transformations commençaient. Elle craignait par-dessus tout de s'endormir en public, au restaurant par exemple. Elle avait accumulé un tel retard de sommeil que cela n'aurait rien eu d'impossible. Le café noir ayant cessé de la tenir éveillée depuis longtemps, elle avait dû se rabattre sur les amphétamines. Elle essayait de restreindre ses pertes de conscience à 3 heures par nuit. C'était peu. Mais elle avait lu quelque part qu'un ridicule petit bonhomme prénommé Napoléon s'était, toute sa vie durant, contenté d'aussi peu, sans que cela l'empêche de devenir empereur. Aussi se tenait-elle strictement à cette règle de conduite. Hélas, son déficit en sommeil s'aggravait au fil des semaines, au point qu'elle avait dû renoncer à toute vie sociale après s'être endormie au volant de sa voiture sur le freeway menant à San Diego. Elle s'était réveillée en sursaut une seconde avant l'accident, pour découvrir que ses mains crispées sur le volant étaient couvertes de poils roux et que ses ongles avaient pris l'aspect de griffes puissantes. Elle avait frôlé la catastrophe. Elle imaginait sans mal la tête des patrolmen si elle avait eu la malchance d'être contrôlée. En raison de ses multiples désagréments, elle ne quittait plus guère l'enceinte de la propriété qu'elle louait sur les hauteurs de Lorraine Canyon. Il s'agissait d'une immense baraque délabrée par les tremblements de terre et qui avait abrité une communauté hippie au cours des 60s. Les murs en étaient couverts de fresques psychédéliques peintes sous acide. Des exemplaires jaunis de Free Press s'entassaient aux 4 coins des pièces. Yumiko passait des heures à les feuilleter, lisant les petites annonces une à une. C'était comme essayer de reconstituer l'image d'une société engloutie par un cataclysme majeur. Une sorte d'Atlantide dont les dieux se nommaient Jefferson Airplane, les Doors. Étrange, très étrange. San Francisco, LA, lui apparaissait sous l'aspect de cité tenant le milieu entre Babylone et Sodome. Un univers onirique, pervers et malgré tout enfantin, dont elle avait le plus grand mal à se persuader qu'il avait un jour existé. Dans l'une des pièces dominant la vallée, une immense affiche du film mort achevait de tomber en miettes. Le visage de l'actrice lui avait rappelé celui de Peggy Mitchum. Elle avait détesté cela. Cette blondeur si américaine éveillait toujours en elle des pulsions de meurtre. La rumeur prétendait que la famille de Charles Manson avait un temps occupé les lieux et qu'il subsistait çà et là des cadavres enterrés aux abords de la demeure. Ces légendes ayant compromis tout projet de vente, le propriétaire des lieux avait dû se résoudre à la louer pour une bouchée de pain à des écrivains, des acteurs, des excentriques qui, de toute manière, n'y séjournaient jamais longtemps. Il faut dire que la baraque, bien qu'immense, ne possédait que 3 pièces habitables, les autres constituant une espèce de musée des sixties à l'atmosphère déprimante. Mais c'était exactement ce que recherchait Yumiko. Un lieu isolé, dépourvu de voisins immédiats, auquel on accédait au terme d'une route enlacée qu'aucun panneau ne signalait. Un vaste terrain en friche entourait la maison. Un grillage haut de 3 mètres en marquait les limites. De loin, l'ensemble évoquait un camp retranché pour terroristes à l'entraînement. Yumiko s'était présentée comme un auteur de thrillers célèbre au Japon. Elle avait pris soin d'exhiber des romans où sa photographie occupait la 4e page de couverture. Il s'agissait en fait de romans policiers japonais achetés en vrac dans une solderie, et auxquels elle avait fait adapter de nouvelles jaquettes par un imprimeur incapable de déchiffrer la langue nippone. Pour parfaire son déguisement, elle s'était également arrangé un bureau dont elle avait tapissé les murs à l'aide d'affiches publicitaires où elle figurait, le stylo à la main, en pleine séance de dédicace. Cela afin de désamorcer la curiosité d'un éventuel visiteur. Pour couronner le tout, elle feignait de ne parler américain qu'avec une extrême maladresse, ce qui décourageait les dragueurs et les employés du 7-Eleven où elle allait faire ses courses. On lui demandait souvent si elle n'avait pas peur de vivre toute seule en un lieu aussi rébarbatif. Une telle naïveté la faisait sourire. Elle n'osait imaginer ce qui arriverait au pauvre violeur qui commettrait l'erreur de s'introduire chez elle en pleine nuit. Il est vrai qu'elle avait d'autres sujets de préoccupation. Depuis son retour du pôle, elle vieillissait à une vitesse anormale. Chaque matin, lorsqu'elle examinait son reflet dans le miroir de la salle de bain, elle le découvrait un peu plus fripé, sabré de rides qui n'existaient pas la veille. Il arrivait que ses cheveux grisonnent en l'espace d'une nuit, ou qu'une de ses canines se détache pendant qu'elle se brossait les dents. Bien sûr, il suffisait d'ordonner aux nanoparticules de réparer ces dégradations pour les voir s'effacer dans les 30 secondes. N'empêche, le problème demeurait, et son rajeunissement n'était qu'apparent. Le mal subsistait, enfoui, réel. Elle avait fini par comprendre que les nano-éléments avaient aligné son métabolisme sur celui des animaux. Elle vieillissait au même rythme que les chiens. Si elle ne parvenait pas à corriger le tir, dans 7 ans, elle serait une vieille femme torturée par les rhumatismes, grabataire, incapable de se mouvoir. Les nanoparticules avaient de toute évidence pris le parti de faire d'elle une bête, une prédatrice adaptée à son environnement. Elles assimilaient Los Angeles à une jungle peuplée de fauves en liberté, de tueurs psychopathes, de démons, qu'il fallait prendre de vitesse si l'on voulait survivre. À leur avis, seule une panthère pouvait les supplanter dans l'art de tuer. Il convenait donc de changer Yumiko Yoshitsune en panthère, même si cela devait abréger son existence. Pour les nano-éléments, seule comptait l'efficacité. Le désir si humain de vivre le plus longtemps possible ne figurait pas dans leurs paramètres. La jeune femme entra dans la cabine de douche et fit couler l'eau, qui était brunâtre, l'irrigation de la maison laissant à désirer. Il lui fallait trouver une solution avant que la vieillesse ne la rattrape. Si elle attendait trop, même les nanoparticules se révéleraient incapables de la remettre en forme. Elle se sécha, passa un peignoir élimé et quitta la salle de bain pour gagner le couloir. Les vomissements lui avaient irrité l'estomac et l'ésophage. Elle ordonna au corpuscule magique véhiculé par son sang d'y remédier au plus vite. Elle s'agenouilla pour soulever une latte de parquet, plongea la main dans la cavité pour récupérer une clé. Puis, se redressant, s'approcha de la porte blindée défendant l'accès aux caves. Lorsqu'elle eut déverrouillé le battant, un puissant rémulgue de fauverie la frappa au visage. Là, creusé dans l'épaisseur de la colline, s'étendait un espace souterrain peuplé de cages où s'agitaient des animaux inquiets. Des biches, des lapins, des chèvres, une arche de Noé engrangée par Yumiko en prévision de ses fringales nocturnes. Chaque soir, aux premières heures de la nuit, elle libérait l'un de ses prisonniers, lui cinglant la croupe pour qu'il sorte de la maison et s'en aille gambader à travers les bosquets du parc. Ainsi, lorsque succombant au sommeil, elle se métamorphosait en prédateur, elle pouvait se mettre en chasse sans crainte de rentrer bredouille. Elle voulait à toute force éviter que la faim ne la pousse à franchir le grillage. Il était hors de question qu'elle s'introduise dans une villa du voisinage pour en dévorer les habitants, ce qu'elle ne manquerait pas de faire si la faim la torturait. N'éveiller l'attention des flics à aucun prix, telle était sa devise. Pour le moment, personne ne s'intéressait à elle. Il fallait que cela dure. Le gibier vivant caché dans la cave lui permettait de conserver un profil bas. Au début, elle avait essayé de disposer çà et là des morceaux de viande crue en prévision de ses prochaines transformations. Hélas, le subterfuge avait échoué. Au matin, elle avait constaté que les pièces de bœuf étaient toujours intactes. La chair morte n'effeuillait pas son appétit. Comme tous les grands prédateurs, elle ne mangeait que ce qu'elle avait tué elle-même, par la griffe et le croc. Depuis, elle procédait à des lâchers d'animaux préventifs. Elle fit rapidement le tour des cages, dénombrant les provisions dont elle disposait encore. Puis nourrit ses prisonniers en puisant dans les sacs d'aliments synthétiques alignés le long de la paroi. Les bêtes gémissaient à son passage. Yumiko avait beau se doucher, le flair aiguisé de ses pensionnaires leur permettait de repérer sur la peau de la jeune femme des effluves qui auraient été plus à leur place sur la fourrure d'un lion des montagnes. La corvée achevée, Yumiko regagna le rez-de-chaussée. Elle était inquiète et fatiguée. Ses préoccupations avaient affaibli la haine qu'elle portait à Peggy Mitchum et ajourné du même coup ses projets de vengeance. Néanmoins, elle n'avait pas cessé d'exercer une surveillance discrète autour de son ennemi. Pour quelqu'un qui pouvait modifier son apparence physique à volonté, ce n'était guère difficile. À plusieurs reprises, elle s'était approchée de Peggy déguisée en chienne, notamment dans le jardin de la villa où elle déambulait en fauteuil roulant. À cette occasion, Yumiko avait eu la satisfaction de constater que sa rivale avait grossi et enlaidi. L'inactivité ne lui valait rien. Sous son déguisement canin, Yumiko avait poussé l'impertinence jusqu'à aller mendier une caresse à l'infirme. L'espace d'une seconde, elle avait failli céder à l'envie de la renverser et de l'égorger. Mais c'était ressaisi. Non, ça aurait été une mort déshonorante, indigne d'une guerrière. Si elle ôtait un jour la vie à Peggy Mitchum, ce ne pourrait être qu'au terme d'un corps à corps, où les chances seraient également réparties selon les préceptes du Bushido, le code d'honneur des combattants. Elle s'était donc laissée flatter comme un brave corneau, sans rien perdre de ce qui se disait aux alentours. En plein jour, elle restait à peu près capable de contrôler ses transformations, pourvu que celles-ci n'excèdent point une vingtaine de minutes. Au-delà, la métamorphose devenait instable. Yumiko perdait peu à peu la direction des opérations, et les nanoparticules, reprenant le dessus, se laissaient aller à de douteuses initiatives. Une fois, alors qu'elle avait pris ce salopard d'Evgeny Kontcharov en filature déguisée en lévrier afghan, elle avait brusquement senti son corps se dilater. Très vite, le chien dont elle avait emprunté l'apparence s'était développé pour devenir aussi grand qu'un cheval. Par bonheur, Evgeny se promenant sur la plage de Malibu, à la lisière des vagues, Yumiko avait eu la ressource de plonger dans la mer pour dissimuler son aspect aberrant. De tels incidents étaient de plus en plus fréquents. Ils témoignaient du délabrement de ses processus internes. Ijasan n'avait pas menti. Plus le temps passerait, moins elle commanderait aux nano-éléments qui n'en feraient qu'à leur tête. Pour finir, elle deviendrait une boule de pâte à modeler vivante, épuisée par les métamorphoses successives, réduite à survivre à l'état de flaque. Malgré tout, c'est sous l'aspect d'un chat errant qu'elle avait surpris une conversation du plus haut intérêt entre Peggy Mitchum et Evgeny. Les défenses entourant le salon où le vieux russe et l'infirme bavardaient n'étaient efficaces qu'en cas d'espionnage électronique. Elle ne pouvait en aucun cas triompher de l'acuité auditive d'un félidé capable d'entendre éternuer une souris à 3 kilomètres. C'est ainsi que Yumiko avait appris l'existence de la femme tombée du ciel. La femme immortelle. Or, en ce moment, l'immortalité, c'était exactement ce qui lui faisait le plus défaut. L'inconnue tombée du haut des nuages possédait un secret dont Yumiko devait à toute force s'emparer si elle voulait vivre plus longtemps qu'un chat ou un chien. Cette femme avait bénéficié d'un traitement révolutionnaire dont elle devait percer les secrets. C'est dans cet espoir que Yumiko Yuchitsune avait pris Peggy en filature lorsqu'elle était allée perquisitionner chez Ornella Jones. Changée en coyote, elle avait écouté les confidences de Michaela Ken, l'actrice alcoolique. Ce qu'elle avait entendu l'avait confortée dans son opinion. Il était d'une importance capitale de suivre cette piste. Dès lors, elle avait enquêté dans le milieu des webgirls pour voir s'il y avait moyen d'entrer en contact avec les fameux géants vêtus de noir. Il ne lui avait pas fallu longtemps pour découvrir que les croque-morts, comme les surnommaient les filles, étaient connus des membres de la profession. « T'approche pas d'eux, ma jolie !» lui avait confié une étudiante en droit qui, pour se payer ses études, animait un site poétiquement intitulé « Culotte moite ». Ce sont des tarés qui recrutent de la viande à Snuff Movies. On n'a jamais revu aucune des nanas qu'ils ont engagées. Des types dangereux qui jouissent de gros moyens. Ils vont t'éblouir en te faisant miroiter le pactole. Mais si tu veux un conseil, tire-toi aussi vite que tu peux dès que leurs yeux se poseront sur toi. » C'était l'opinion qui prévalait. Les géants souffreteux cherchaient des victimes pour jouer le premier rôle dans ces films de mise à mort qui se vantaient une fortune sur le marché clandestin. Yumiko jugea l'explication un peu courte. Des rabatteurs de snuff n'auraient pas versé un demi-million de dollars à leurs futures actrices. Ça ne tenait pas debout. Quelque chose d'énorme se dissimulait derrière tout cela. Une organisation disposant d'un budget illimité. Elle avait décidé de s'attacher au pas de Peggy afin de suivre la progression de son enquête. Depuis que l'Américaine avait quitté les bureaux du Destroy, c'était redevenu possible. En effet, 3 jours auparavant, Peggy Mitchum avait loué un 2 pièces dans un condominium pour célibataire de Sunset Boulevard et s'y était installée sous une fausse identité. Yumiko s'était bien sûr empressée d'y poser des mouchards indécelables, caméras et micros, grâce auxquels elle suivait les tâtonnements stratégiques de son ennemi. Elle n'avait pas tardé à découvrir que Peggy avait mis en ligne un site intitulé « Fille à reluquer pendant sa toilette ». La garce avait modifié son apparence physique de manière à se donner l'allure d'une nageuse soviétique hormonée à outrance. Peu de webgirls correspondaient à ces critères. Il y avait donc fort à parier que les mystérieux recruteurs ne tarderaient pas à la remarquer. C'était bien joué. Yumiko passait ses journées penchée sur ses appareils d'écoute dans l'attente d'une prise de contact. Jusqu'à présent, les géants d'outre-espace n'avaient pas donné signe de vie, et la japonaise rongeait son frein. De temps à autre, Peggy appelait Evgeny sur une ligne sécurisée et lui faisait son rapport, ce qui permettait à Yumiko de compléter ses informations. Pour l'heure, Peggy n'avait pas encore utilisé le fameux téléphone extraterrestre. Elle préférait tenter sa chance par la voie ordinaire, celle qu'avait empruntée Ornella Jones. Elle craignait qu'une attaque directe n'effraie les recruteurs et ne la rende suspecte à leurs yeux. Elle tenait donc ce moyen en réserve, au cas où la stratégie douce ne donnerait aucun résultat. Cette interminable attente mettait les nerfs de Yumiko à rude épreuve. Comme chaque fois qu'elle perdait son sang-froid, les nanoparticules voyaient dans son stress un signal de danger imminent et entreprenaient d'adapter son corps à la situation, afin qu'il puisse annihiler la menace. Cela donnait parfois de curieux résultats. Un après-midi, l'ouïe hyper développée de la jeune femme se trouva agressée par les aboiements du chien des voisins, dont la maison se dressait pourtant à près d'un kilomètre. Qu'importe. Le son, quoique étouffé par la distance et la végétation, semblait tout proche à Yumiko, qui entra dans un véritable état de fureur. Presque aussitôt, elle perdit connaissance et se transforma en un énorme coyote. Le prédateur quitta la maison et, après avoir creusé un trou sous le grillage, se faufila à l'extérieur. Il ne lui fallut pas longtemps pour trottiner jusqu'à la villa des voisins et dévorer l'insupportable roquet sous les yeux de ses maîtres occupés à faire trempette dans la piscine. Fuyant les hurlements des humains horrifiés, le coyote s'en retourna dans les bois, sa proie coincée entre les mâchoires. Quand Yumiko reprit conscience, elle était couchée nue au creux d'un fourré, barbouillée de poils et de sang. C'était une situation dangereuse qui aurait pu la mettre dans l'embarras si les hommes du shérif l'avaient surprise dans cet état. Heureusement, en prévision de ces métamorphoses intempestives, elle avait enterré, ici et là, ce qu'elle surnommait des kits de nettoyage. Il s'agissait de sacs étanches contenant 3 bouteilles d'eau, des éponges, des serviettes et des vêtements de rechange sommaire lui permettant d'adopter l'apparence d'une fan de jogging. Sitôt réveillée, elle s'orienta et se mit en quête du kit le plus proche. Nue et sanglante, elle offrait un curieux spectacle. Elle eut tout juste le temps de se laver, puis de passer un short, un t-shirt et des sneakers. Déjà, une patrouille armée ratissait la colline. Quand elle surgit devant eux, trempée, ils la prièrent de regagner son domicile sans attendre, et l'un des adjoints insista pour la raccompagner jusqu'à sa porte. Un de ces salopards de coyotes a encore fait des siennes, Miss, lui expliqua-t-il. C'est bizarre. D'habitude, ces charognes ne sortent que la nuit. Yumiko le remercia en s'appliquant à jouer les demoiselles effrayées. Encore une fois, il s'en était fallu d'un cheveu. Si les patrouilleurs l'avaient surprise, gluante de sang, du poil de chien plein la bouche, elle ne s'en serait pas tirée aussi aisément. Les tuer tous ? Non, c'était inenvisageable. Leur disparition aurait engendré une enquête de proximité, ce qu'elle voulait éviter à toute force, son identité d'emprunt ne pouvant résister à un examen approfondi. Hélas, à quelque temps de là, elle devait être encore une fois victime de ses nerfs. La nuit, Mulholland Drive était le théâtre de courses absurdes entre étudiants et collégiens. Des groupes de jeunes, imbibés d'alcool ou d'excitants, se lançaient à travers les lacets de la crête, le pied au plancher, se souciant fort peu de finir au fond d'un ravin. Ces prouesses s'accompagnaient chaque fois de hurlements et de coups de klaxon qui réveillaient Yumiko en sursaut. Obéissant à leur propre logique, les nanoparticules assimilèrent les voitures à une menace invasive qu'il était capital de repousser avec le maximum de fermeté. Passant en revue les schémas zoologiques engrangés dans leur mémoire, elles sélectionnèrent une forme animale qui leur semblait apte à affronter l'ennemi en lui infligeant le plus grand préjudice. C'est ainsi que Yumiko, à son insu, fut métamorphosée en rhinocéros. Un petit rhinocéros, soit, et assez approximatif au demeurant, mais dont la puissance d'impact se révéla bien supérieure à celle d'un vrai représentant de l'espèce. En état de transe somnambulique, Yumiko Yuchitsune quitta la maison, fit un grand trou dans le grillage de clôture et entreprit de remonter Mulholland Drive à contresens. Son apparition dans la lumière des phares frappa les collégiens de stupeur. Amoindris par la drogue, aucun d'entre eux ne parvint à l'éviter et, chaque fois, la corne du pachyderme défonça leur pare-choc, les propulsant hors de la route. La plupart plongèrent directement dans le ravin et se tuèrent. Ceux qui survécurent expliquèrent en balbutiant au patrolman qu'ils avaient été attaqués par un rhinocéros. On mit cette hallucination sur le compte des substances illégales dont leur sang était saturé, et l'on ne chercha pas à en savoir plus. Le lendemain, Yumiko, qui ne conservait aucun souvenir de sa conduite nocturne, s'éveilla avec un énorme hématome à la hauteur du nez, comme si on l'avait frappé au visage avec une batte de baseball. L'ecchymose disparut au cours de la matinée, sans que jamais la jeune femme ne comprenne ce qui s'était passé. À chacune de ces transformations, elle vieillissait de quelques années. De nouvelles rides apparaissaient, sa chevelure virait au poivre et sel. Si elle n'avait pas ordonné aux nanoparticules de corriger ses dégradations, elle aurait eu l'aspect d'une femme de 55 ans, alors qu'elle atteignait tout juste la trentaine. Le processus s'aggravait. Chaque métamorphose abrégeait son existence. Si elle ne trouvait pas très vite le moyen de remédier à cet inconvénient, elle connaîtrait le même sort que les malades atteints de progéria, ce dérèglement glandulaire qui entraîne un vieillissement accéléré.